France Inter.
C'est la bande originale. Et ma beau Jean, avec Lisa Delmoitier, avec Julia Santini,
bonjour,
Olvela, Franck Passero, Daniel Morin,
coucou Lisa,
et notre invité, monsieur Guillaume Gallier.
Ah oui, ouais. Bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
Bienvenue Guillaume, on est ravi de vous accueillir pour ce film. Vous n'êtes pas Lady Nazca, mais vous êtes son mentor,
Oui, tiens, bonne idée. Qu'est-ce que je suis ? Je suis.
Vous lui donnez en tout cas l'occasion de visiter le Pérou.
Voilà. Le Pérou, elle y était. Ouais. Lady Nazca, Maria Reich. Donc c'est une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie.
Et vous partez dans le désert avec elle.
Et je suis archéologue et j'ai besoin d'une traductrice de texte allemand parce qu'un archéologue a expliqué que ces lignes étaient probablement des trucs d'irrigation et donc je veux savoir. Je l'emmène et là, elle va découvrir. Elle va découvrir plein de choses, elle va découvrir sa vérité à travers ce désert qui existe.
On va en parler jusqu'à midi et demi, parce qu'il y a aussi cette rencontre avec quelque chose de patrimonial qui touche l'humanité en général. Et ce que vous avez approché les uns les autres un jour, justement, ce signe, ce monument qui appartient à la mémoire, au patrimoine mondial. J'adore ta tête.
J'ai pas compris la question.
Est-ce que vous êtes déjà allé?
Par exemple, s'il vous plaît, Nagui, donne un exemple.
Par exemple.
T'es déjà engagé, on t'a dit.
Par exemple, dans le. L'endroit le plus. Oui, qui m'a le plus historique. Ému, historique et patrimonial, c'était évidemment pour moi les pyramides d'Égypte.
C'est mieux à la maison.
Alors, je ne croyais pas. Mais ça m'a fait quelque chose de me dire que ces siècles-là nous observaient. Et toi, Lisa?
Je crois que de site historique.
Tu vois le côté patrimonial où ça peut, être aussi un seul.
Moi, j'ai eu ça au Mexique, à Monte Albán, auprès de Oaxaca, où vraiment je me suis senti. J'ai senti une énergie,
des ondes
incroyable.
Passées.
Oui, vraiment.
Mais je crois Rome de fond en comble. toute la ville.
Oui. Ok, chargée d'histoire aussi. Oui. Très bien. Emma Beaujean ?
Moi, je crois que c'est la première fois que je suis allée à Ellis Island et que j'ai vu les noms de famille de mes ancêtres arméniens. Et que moi, du coup, mon nom, c'est Beaujean, mais il a été francisé et qu'avant, c'était Boyadjian. Et j'ai toujours su ça sur mon histoire. Et là, pour la première fois, je voyais plein de Boyadjian, plein de noms écrits. C'était hyper émouvant.
C'est beau.
Une commémoration. Leïla ?
Je pense que c'est Rome aussi. Je pense que c'est le.
Unique objet de votre ressentiment.
C'est vraiment Rome. Je trouvais ça absolument fou d'imaginer.
Vous avez ressenti quelque chose, quoi. Une espèce d'émotion. Okay.
Oui, que le point de vue, là où tu étais, il y a toute une. C'est
il y a
vertigineux.
Tellement de couches.
C'est vertigineux de se dire qu'on est là.
Et le fait que ce soit dans la ville aussi.
Enfin,
on sort d'une rue.
Et pas la Grèce, par exemple.
Pas du tout la Grèce. Moi, c'est dans le stade de Bastia, le stade Armand Cesari. Bastia, tes supporters sont là. Et d'entendre vraiment
c'est pas
mon
Furiani,
peuple.
C'est...
Oui, c'est aussi le stade de Furiani.
C'est le même nom.
C'est le même nom.
Pardon.
Et d'entendre tout un peuple dire Unir, Vincere, Guillaume. Parce qu'il y a vraiment une ode à Guillaume Gallienne aussi dans notre stade. C'est fou.
Okay, d'accord.
J'essaye de faire un lien avec l'artiste.
Oui, je vois bien.
Tout bêtement, c'est la Tour Eiffel. J'avoue que quand je la regarde, je suis fasciné par cet objet, de métal qui me chaque fois que je passe devant, ça me fait quelque chose.
Tu t'en fais des miniatures avec des cure-dents
La dame de fer.
Mais c'est une très belle idée cadeau pour les gens qui ne sauraient pas quoi faire.
Il en a construit une avec des allumettes chez lui. C'est très mignon.
Oui, je vous invite à une soirée.
Ça explique tellement.
Oui, la place Saint-Pierre.
Place Saint-Pierre.
Ouais. Non, franchement, place Saint-Pierre, je me suis dit écrasé par le poids.
C'est beau.
Truc.
Ok.
Vraiment.
D'accord, très bien. Justement, il y a un côté patrimonial et réel dans cette histoire de Lady Nazca. On va en parler. C'est le premier long métrage d'un ami. C'est Damien Dorsaz qui sera notre invité tout à l'heure.
D'un ami de toi ?
Non, d'un ami de Guillaume.
On dit un de tes amis, pas un ami de toi.
D'un ami.
D'un ami.
D'un ami, ça peut sembler.
D'un ami de toi, Nagui.
Sinon, les gens vont parler.
N'hésitez pas à me corriger jusqu'à la fin de cette émission.
Que c'est un de tes amis.
Vous vous connaissez depuis le cours Florent ?
Oui. On avait, moi j'avais 19 ans, il en avait 17. Et
on dirait une voilà. chanson d'Alida, ouais. c'est le début de.
Et un amour.
Oui, et oui. Et bah oui, un amour, bah oui, c'est mon meilleur ami. Et voilà, et il se trouve qu'à 22 ans, il est allé au Pérou, il a rencontré Maria Reich, c'est pour de vrai. Il a été très ému par cette femme et par son histoire. Et en rentrant, j'ai vu cette émotion chez lui. Et puis, il a décidé de faire un documentaire sur les lignes de Nazca, parce que c'est vrai que c'est le plus grand site archéologique du monde, et que c'est assez fascinant, cette carte du ciel et du cosmos qui a été offerte
par toutes les étoiles,
par cette civilisation qui
remonte à quand
entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 6e siècle. Mais ils ont laissé à l'humanité cette carte du cosmos, comme ça, cadeau.
Ça calme, et qui a failli être détruite pour des histoires d'irrigation.
Entre autres.
On en parle, c'est pas spécialement. D'ailleurs, on va pas le qualifier de biopic, ce film. Je trouve que on peut avoir un tout petit peu plus de recul. Il y a une phrase, moi, qui m'a énormément plu dans le film. Pas qu'une. Je préviens Daniel Morin d'éviter de dire...
Ouais, t'as vu un peu le procès d'intention
Incroyable. Je te connais. C'est quand t'as dit, j'ai trouvé ma place.
Ben oui.
Et ce sentiment-là de se dire, ok, dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, cet endroit-là, c'est l'endroit où je me sens le mieux.
Oui.
C'est déjà bien de pouvoir le ressentir une fois dans sa vie, ce sentiment-là. Et c'est ce que l'on voit dans le film. Avant tout, Guillaume, voici Hold de la fan, totalement fan de Guillaume Gagnère.
Tellement. Ouais. Je suis fan de Guillaume Gallienne. C'est lui mon héros. J'avais hâte qu'il revienne. On a fait exprès de l'inviter à Noël. C'est beau, j'espère qu'il nous a rapporté à chacun des cadeaux. Et vous êtes là aujourd'hui pour Lady Nazca, surnom de Maria Reich qui a mis à jour tout ça. Une Allemande qui s'appelle Maria Reich, c'est cliché, surtout quand c'est en Amérique du Sud qu'elle va se planquer. Je suis fan de ses dessins bizarres, on a les mêmes en France. Après le passage de Daniel aux toilettes de Radio France. Mais c'est pas le phénomène le plus paranormal. Ce matin, il se passe un truc dans la bande originale.
Mais quoi ?
J'ai au fond du cœur une drôle de voix égyptienne que je retrouve au taf à peu près 5 fois par semaine. Mais ce matin, c'est chelou, notre invité, c'est Guigui. Et les deux fusionnent, ne font plus qu'un, moi je dis youpi. Oh, je t'aime Nagui Gallienne. Oh, je t'aime Nagui Gallienne. Dans le décor rouge, tous deux ne font plus qu'un. Ça sent le vin rouge, ça c'est Daniel Morin. Un animateur, comédien à la fois. C'est du jamais vu, mais j'aime bien ça. Je t'aime Nagui Gallienne. Ouais, je suis fan, j'adore Lady Nazca, c'est bien sans doute. Mais un Nazca de plus, c'était une équipe de foot. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Wow, bravo.
J'avais pas compris le 1 de plus, on fait une équipe de foot, mais je
viens. Moi, j'ai pas compris. Non,
Lady.
Compris.
Lady.
Mais évidemment, Lady Nazca.
Ça devient Léon.
Ça fait Léon, bien sûr. Bravo.
Merci, Marge. Il est.
Sur scène, non, tout est annulé. Tout est annulé.
Non, ah, ça soir. Y est, c'est passé. La loi est passée.
Oui, on a réussi. Et demain soir, bon, ça a été mal fait. Il résiste à Nantes au festival Tissé Métissé.
Trouver sa place. Est-ce que ça serait une baseline de ce film Guillaume Gallienne?
Ah oui, c'est exactement
ça. Elle cherche
ça.
Sa place, Lady Nazca.
Elle cherche sa place, elle la trouve, oui, mais c'était exactement ce que voulait raconter Damien, au-delà du côté extraordinaire de cette femme, en effet, allemande qui balaye le désert pendant quand même 50 ans.
Au sens propre du terme.
Ouais. Au sens propre du terme. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'il voulait raconter, c'est en effet, c'est comment est-ce qu'on, tout d'un coup, dans une vie intérieure, on se sent appelé par quelque chose et que on s'y commet vraiment, on se livre à cette confiance qu'on retrouve quelque part.
C'est presque mystique, en fait.
Oui, totalement.
Ouais, comme si elle était.
Mais c'est l'histoire de toute passion, finalement, puisque le théâtre, c'est la même chose. Enfin, quand tout d'un coup, on est sur scène et qu'on se dit, bah, en fait, c'est là. Voilà, ça va être nulle part ailleurs. Après, on est prêt à tout. Pour, alors peut-être pas balayer le désert pendant 50 ans, mais c'est une métaphore.
Ça peut devenir une image, oui. Au risque de se perdre aussi un tout petit peu.
Et de perdre les autres.
Je crois de, oui, de se perdre. Enfin, oui, pour Lady Nazca, elle a failli, mais elle, elle avait l'air tellement déterminée, certaine. C'est les autres qu'on doutait, plus qu'elle.
Alors, pour ceux qui n'ont pas la base de l'histoire réelle, cette dame donc rencontre un archéologue. Il y a des grandes lignes dans le désert. On ne comprend pas très bien la signification. Et puis, elle travaille, elle se penche sur cette culture, cette civilisation Nazca, donc qui date de plusieurs millénaires. Et elle veut essayer de comprendre. Elle va connaître cette illumination sans mauvais jeu de mots. Mmh. Mais en tout cas, il y a des formes et elle prend de la hauteur. Elle a besoin de monter sur une échelle, d'ailleurs, faite de briques et de brocs pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Elle voit des animaux dessinés, des formes géométriques qui ont forcément un sens. Elle demande même, d'ailleurs, à la population locale ce qu'ils auraient pu retenir. Et puis ils disent, bah non, on a été envahis, colonisés et on a tout effacé de notre mémoire, de notre culture, de notre religion.
Sauf ça, grâce au fait que ce soit le désert le plus aride du monde, il n'y pleut jamais, donc c'est ça qui a préservé les lignes. Après, elle n'est pas archéologue, donc elle est snobée par les archéologues qui disent « mais pour qui tu te prends, en fait ?» Elle, elle est mathématicienne. Ce qui a beaucoup aidé, je crois, pour cette curiosité qu'elle a eue pour ces lignes, parce qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose de mathématique. Et c'est presque, c'est comme si les siècles avaient attendu cette mathématicienne pour enfin être révélée, pour enfin révéler le secret de ces lignes qui, en effet, ne peuvent se voir que du ciel. Enfin, toutes les figures animalières ne peuvent se voir que du ciel. Or, a priori, la civilisation Nazca ne savait pas voler. Donc, ils l'ont vraiment laissé pour le ciel, pour les dieux.
Ça part d'un point précis, plusieurs lignes vont dans différents endroits du désert. Chaque fois au bout de la ligne, il y a un dessin. Il y a des milliers
Des lignes, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Les figures, il y en a, mais ça, Damien, il sait mieux que moi.
Il sera là tout à l'heure, on en parlera avec lui.
C'est pas les signes du zodiaque, c'était pas associé à ça.
C'est la théorie de Maria Reich, oui. En fait, que c'est une carte vraiment du... C'est à la fois du cosmos, des étoiles et du soleil. Puisqu'elle s'est rendue compte que certaines lignes arrivaient pile au solstice et aux équinoxes et tout ça. Mais les figures animalières, c'est certainement une sorte de signe de zodiaque.
Ouais. Courir après un mystère, là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant. Parce qu'elle, Leïla le disait, elle se perd et elle perd les autres. C'est-à-dire qu'elle finit par... rompre ou couper les ponts, en tout cas, avec toutes celles et tous ceux qui veulent la retenir.
Mais sa passion est telle qu'elle abandonne tout, mais ça aussi, je la comprends. C'est-à-dire que, alors, elle abandonne, là où je comprends moins, elle abandonne le confort. Bon, ça, je sais pas comment elle fait. mais à part ça.
Non, mais l'eau courante, l'électricité, elle se retrouve dans une tente.
Non, mais vraiment, un dénuement le plus total. Elle est d'une grande humilité. Après, moi, ce qui me touche.
Jusqu'à manger
beaucoup,
des frites pourries.
C'est que, bon, vous le recevez là tout à l'heure, mais vous allez lui demander. Mais en fait, Damien, il a fait un peu la même chose, parce qu'il a mis 18 ans à monter son film. Donc c'était sa manière à lui de balayer le désert. Et il y a quelque chose de très semblable entre les deux.
On va évoquer donc cette Lady Nazca qui a réellement existé. On va quand même aussi parler de l'objet, le film en lui-même, avec des images absolument formidables. Lumière magique qui est peut-être propre à l'endroit où ça a été tourné. Il y a un an, deux ans ?
Il y a un an.
D'accord. En plein désert, et ce en à peine 3-4 semaines.
Ah oui, ça a été chaud. Mais ça a été chaud. Et enfin, chaud, non, parce que c'était l'hiver et on se pelait, mais ça a été chaud en rythme. Non, en rythme, ça a été assez incroyable, oui.
Et cette comédienne absolument magnétique.
Oui.
Dont on ne peut pas se détacher. Moi, je ne l'ai pas quitté des yeux.
C'est l'actrice de The Empress. Ouais, elle est incroyable.
Devrim
Lignau.
Lignau. Ouais, elle est incroyable. Oui, parce qu'elle elle en fait absolument. Elle elle en rajoute pas du tout, mais elle est d'une telle intensité. Oui, on la croit vraiment.
Bah, elle peut paraître extrêmement fragile et pourtant elle va même presque physiquement se battre pour défendre sa passion et sa quête. C'est ça qui est fort.
Elle doute de rien.
Ouais. C'est émouvant. Puis il y a une jolie histoire d'amour aussi en filigrane dans ce film. On en parle. C'est le premier long métrage de Damien Dorsa qui est notre invité et qui sera là tout à l'heure. Lady Nazca. Mais d'abord, voici Lisa Delmoitié.
Oui,
bravo. Lisa. Vous n'auriez pas fait un film comme ça, vous.
Ouh,
c'est ça qui est dingue.
Non. J'ai regardé assez de Faites entrer l'accusé pour le savoir.
Un mec me dit, viens avec moi, je vais trouver un vestige dans le désert péruvien. J'y vais pas. Hein. C'est vraiment, c'est pas contre vous, Guillaume, vous m'avez l'air digne de confiance, mais depuis l'abbé Pierre, je baisse plus ma garde. J'ai confiance en personne. Ça me rappelle la fois où j'ai appris que les dauphins étaient des violeurs.
Oui. C'est vrai.
Qui peur ? Non mais c'est quoi la suite ? Le Père Noël est pédophile ? Enfin, s'il vous plaît. Oui, quoi ? Mais votre personnage, Guillaume, je dois le reconnaître, c'est un bon gars. Et on l'a dit, il amène donc Maria Reich à ce vestige qui devient une obsession pour elle et au-delà de ça, une direction, un but. Parce que vraiment, la vie, c'est simple. Il faut juste se trouver une obsession. Hein. C'est vrai, un vieux truc dans le désert, devenir président, un porno, le nombre pi, un porno sur le nombre pi. En gros, le mec n'a pas le droit de jouir tant qu'il n'a pas trouvé toutes les décimales. Ouais, c'est chaud. Ouais. C'est la quête d'une vie, trouver ce qui nous obsède, trouver une passion. Parce que trouver sa passion, c'est se trouver soi-même. C'est pas moi, je l'ai lu sur un sachet de thé. À la fin de notre vie, quand on fera l'addition, il ne restera de nous que la somme de ceux et de ceux qui nous a obsédés, hein, ce qu'on a aimé. Dans mon cas, mes parents, le camembert, les blagues inappropriées, ce mec qui m'a dit qu'il m'aimait, puis a disparu. Le film Babe, les fous rires, la neige, le baiser d'Alain Souchon, la chanson Le baiser d'Alain Souchon. J'essaie de lancer une rumeur entre Souchon et moi pour booster ma carrière. Je sais pas, j'aime bien le visuel de moi qui glisse ma main dans ses trois cheveux. Je sais pas. C'est un truc. C'est important d'avoir des passions. Hein. Bon, après, Maria, elle est peut-être au Pérou, mais elle est européenne. Et là aussi, je me méfie. Parce que nous, les Blancs, quand on se prend de passion pour un pays, on a une légère tendance à en faire notre jouet, quand même. Hein. Pardon, mais on a vu ce qui arrive à l'Amérique, déjà. T'as un Espagnol qui se prend de passion pour un site Inca. Résultat, trois siècles plus tard, Donald Trump en a fait son terrain de golf. Hein. Avec les Amérindiens relégués à bosser au McDo. À l'époque, Antas, tu me remettras du ketchup. Je vous raconte pas le nombre de Français qui se sont pris de passion pour l'Algérie. Bon, cela dit, on a changé. Hein. Maintenant, quand on aime un pays, on le colonise plus. On ramène un magnète à coller sur le frigo. Et je sais pas ce qui est pire, franchement.
Oh non.
Sérieux, t'enlèves les trucs piqués à l'Égypte des musées européens. Il reste la Joconde, trois tournesols et 2456 Jésus. Hein. L'Europe, en gros, c'est l'Europe. Des fleurs, de la culpabilité judéo-chrétienne et des femmes qui tirent la gueule à cause de la culpabilité judéo-chrétienne. Mais ce qui est rafraîchissant dans le film, c'est que Maria ne s'impose pas. Ah, un rire auquel on ne s'entendait pas. Non, ce qui est réfléchissant dans le film, c'est que Maria ne s'impose pas, ne s'approprie pas la culture, elle en tombe amoureuse simplement, puis la défend. Hein. Oui. Souvent, les derniers arrivés sont les plus grands défenseurs de la culture. Mm. Moi, je suis en France depuis même pas 2 ans, mais l'autre jour, j'ai foutu un coup de boule à mon frère parce qu'il disait 90. Alors qu'on tournait un film, et c'est pas ça le nombre pi.
Oh non.
Et donc, on voit Maria défendre ceci, défendre l'histoire du Pérou et défendre des traces laissées depuis 1500 ans. C'est beau, c'est énigmatique, c'est immense. Ligne blanche au milieu du désert, comme si Dieu prenait de la coke. Ça expliquerait tellement de choses. Alors, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler le véritable miracle de ces lignes blanches, mais ça donne envie de se trouver une passion et une culture à défendre, puis ça redonne confiance à l'être humain. Parfois, c'est OK de suivre un homme dans le désert.
Mais c'est vrai ce qu'elle dit, ce qui est
tout
magnifique.
Tout est vrai.
Non, mais ce qui
tout est
magnifique. Bon. Est magnifique.
Les magnètes sur le frigo.
Ce qui est magnifique, c'est vrai que Maria ne pille pas du tout, contrairement au personnage que je joue, qui est vraiment l'européen typique de l'époque.
Qui
vend exactement, qui pille le pays pour vendre.
Ouais, et puis qui l'écoute un peu d'une oreille lointaine aussi, un tout petit peu.
Lui est archéologue, pas elle, donc de quoi elle parle.
Il la méprise ?
C'est pas qu'il la méprise, mais
parce qu'il va quand même lui ouvrir quelques portes aussi.
Non, mais il va finalement se rendre compte qu'elle a peut-être pas tort et que c'est intéressant. Au-delà de l'intérêt, c'est intéressant profondément, pas financièrement. Mais il est, au départ, il dit gentil, mais enfin bon.
Il a autre chose à faire.
Ouais, et puis c'est pas son job à elle.
C'est d'abord votre amitié pour Damien qui vous a amené à ce projet avant l'histoire, honnêtement.
Oh bah oui, il me demande de dire Madame est servie, je le fais, oui bien sûr, oui.
Et de jouer Madame est servie aussi.
Et de jouer Madame est servie, bien sûr, aucun problème, oui. Non mais bien sûr, bah oui. Ah bah si on fait pas ça par amitié, merde.
Alors qu'est-ce qu'on apporte ensuite ? Qu'est-ce que l'on suggère ? Qu'est-ce que l'on donne au personnage que l'on incarne ? Il a existé cet archéologue.
Alors il a existé dans la vraie histoire, c'est un Américain. Okay. Mais bon, la production est franco-allemande, donc voilà, il est français. il fallait pas mal de mots français pour le CNC tout ça. Et donc
il y a des quotas.
Donc j'ai parlé français et sans accent. Et non, mais qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte. on apporte sa disponibilité, surtout. Moi, c'est ce que j'aime le plus.
Non, mais il faut créer un personnage de toute pièce.
Damien, il savait exactement ce qu'il voulait, donc je voyais déjà avec ses fringues, avec son gilet, son machin. Je savais exactement comment il allait être fringué. Je savais exactement ce qu'il attendait.
Parce qu'il a mis un peu de vous, quand même, dans ce personnage aussi.
Oui, c'est ce qu'il dit, mais bien. Après, c'est. Non, mais.
Vous n'êtes peut-être pas bien placé pour voir ce qui.
Non, je ne vois pas. Et pour tout vous dire.
Je sais pas, la prétention, la suffisance, la distance, l'arrogance. Bah, je cherche des mots. Hein. J'aide.
Au hasard, totalement.
Non, en plus, c'est exactement ça, mais évidemment. Mais évidemment, c'est exactement ça. D'une manière soi-disant policée. Mais bon, c'est ça. Qui finalement, bon, se dit ok, d'accord, je vais t'aider, je vais être sympa. Mais c'est exactement ça. Mais je pense que c'est ce que je dégage aussi.
Ouais, non, mais le poids de l'amitié, c'est-à-dire que sans vous, le projet n'aurait pas pu se monter, sûrement.
Non, faut pas pousser. Non. Mais si, il aurait vécu le. Non, je ne m'octroie pas du tout ça. Mais en revanche, que Damien se soit servi de mes défauts. Et il a bien raison. C'est comme, mais on travaille avec nos défauts. On est là pour incarner des monstres aussi. On est là pour, ça sert à ça. Donc, surtout qu'il utilise mes défauts.
Quand vous avez vu le film la première fois, c'est-à-dire quand vous avez découvert le résultat, la transcription du ciel étoilé que vous avez pu voir de ce que vous avez ressenti dans ce désert. Alors peut-être avec la température légèrement différente. Vous avez, personnellement, moi, j'ai pris une claque. Des paysages que je n'avais jamais vus de ma vie. Je trouvais ça absolument sublime. Et on n'est pas dans la contemplation gratuite. On est dans le combat. Elle est au milieu de la tempête. Elle est au milieu du vent.
Nous aussi.
Elle est prête à peut-être même à mourir pour aller au bout de son sa quête, de son enquête.
Oui.
Vous avez ressenti l'objet artistique du cinéma de quelle manière?
Moi, j'ai été très ému par le film, par l'intensité de l'actrice et cette communion avec l'intensité de la beauté de l'endroit et de son mystère. Mais j'ai été évidemment très ému de ce que raconte mon meilleur ami de lui aussi. En fait, c'est ça qui m'a plus touché
et
qui me touche encore énormément aujourd'hui.
La portée autobiographique de ce premier long métrage, en fait.
Ah, oui, en tout cas, autobiographique, je ne sais pas, mais très intime, de Damien. Et c'est quelqu'un très pudique, donc il ne le dit pas facilement. Moi, je le vois. Et donc, je trouve ça bouleversant. Un mec qui met. Quelle opiniâtreté, quand même, 18 ans pour faire son film. Et il était hors de question qu'il fasse autre chose.
Ça a commencé par un doc.
Oui, en fait, il a fait un documentaire et il s'est rendu compte que. Le documentaire ne racontait pas la vérité de Maria Reich, parce que tout le monde disait c'est une sainte, elle est géniale, et machin, ok, d'accord, mais c'est quoi la vérité de cette femme? Et il s'est dit, je suis obligé de passer par la fiction, ce que je trouve brillant, parce que c'est tellement vrai. Et c'est par la fiction qu'il a trouvé cette vérité, qu'il a rendu cette vérité. Mais parce que lui aussi, il la connaît, cette vérité-là. Et ça, je trouve ça très beau.
Est-ce que la passion passe par une espèce de destruction de sa vie privée, de sa vie sentimentale aussi? C'est-à-dire qu'il faut la mettre de côté pour aller au bout de sa passion?
Non, heureusement non. Enfin, heureusement pour moi, en tout cas, non. Mais il faut rencontrer une personne qui comprenne
la passion.
Ah, ouais.
Parce qu'il y a des passions destructrices.
Non, c'est pas ça. C'est que c'est excluant parfois pour l'autre. Il y a des moments où moi, quoi qu'il arrive, je vais jouer. Je suis désolé, je joue. Donc je peux pas là. Là, il est 30.
Quand vous dites quoi qu'il arrive, c'est-à-dire même si l'autre vous dit n'y va pas.
Ben oui, non, mais quoi qu'il arrive, je joue. Mais non, je suis désolé.
Si l'autre vous connaît jamais, il ou elle ne vous dira n'y va pas.
Il y a 900 personnes. Je joue. Enfin, ça se discute pas.
Ok,
il y a
900 personnes. Je ne prenais pas comme ça. Je pose une question.
Non,
ça va.
Non, mais ce que je veux dire, c'est.
Là, si vous êtes en train d'engueuler Nagui, quand même.
Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est très intense.
C'est pas le moment de s'embrouiller en couple, quoi. Juste avant la représentation. Je vais partir.
Mais
si c'est la bonne personne, de toute façon, elle comprend.
Ça, c'est la petite musique, une petite ritournelle qui vient accompagner Oui, il y a un côté enfantin, je trouve.
Mais ça a dû être un travail. Ça a dû être un travail fou de reconstituer dans le désert ces formes-là.
Ah, le, l'équipe d'écho
en fait,
est incroyable.
Pas les vraies formes,
non, c'est pas les vraies parce qu'on pouvait pas, on n'a pas le droit. Et puis qu'en plus, il y a tellement d'avions qui volent au-dessus pour les touristes qui veulent voir les lignes. Donc non, et on pouvait pas. On était, nous, on était à 2 heures de là.
Vous voulez dire que les lignes aériennes font visiter les lignes au sol.
Non, les avions de tourisme, c'est des...
Non, mais vraiment, oui, c'est ça. Ok.
Il y a des coups.
Il détourne.
Oui,
non, ah,
c'est
pas, pardon, c'est pas... une... Ah, pardon, je crois que c'est des lignes entre guillemets normales.
C'est pour aller voir les formes.
Ok, très bien. Pour aller faire en Montgolfière, ça ferait moins de bruit déjà.
C'est vrai.
Ah, ça, on va c'est leur dire. Une bonne idée, absolument.
Oui.
Non, mais
il faut recréer plus loin les.
Voilà, on l'a recréé, mais à 2 heures de là, dans un désert très identique, très très beau. Mm. Et l'équipe des coups a fait un boulot incroyable.
C'est fou.
Oui, c'est fou.
Parce que quand on voit là, c'est monumental en fait.
Ouais. Oui, c'est immense. Et surtout qu'au départ, ils avaient fait un peu moins gros, puis Damien a dit, ça le fait pas.
Oh, wow.
Balayez plus loin encore, s'il vous plaît.
Faut vraiment la taille réelle.
Devrim Lignau, le nom de cette actrice allemande qui est impressionnante, touchante, émouvante. Il y a également Olivia Ross, Marina Pumachapi, Javier Valdés, Beto Benitez, Alberic Garcia, Victor Prada, Jorge Pomacanchari, Catalina Silvestro-Ré, c'est-à-dire que c'est une coproduction internationale.
Péruvienne.
Péruvienne
surtout.
Allemande
en
et française.
Franco-allemande et péruvienne.
Voilà. Avec Guillaume Gallienne, qui porte ce film, en tout cas nos micros, et la réalisation est de Damien Dorsa, on le recevra tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici Julien Santi.
Oh là là. Merci beaucoup. En ce début de semaine, comme à l'accoutumée, je m'en vais écrire ma chronique hebdomadaire au café, en bas de mon immeuble. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être Zola. Le rappeur, hein, pas l'écrivain. L'auteur qui prépare son mythique. Tu connais le gang? Y'a pas de... Bref, une fois le séant posé dans le dit café, je commande alors un thé masala chai. Des gens, peut-être, autour de la table, qui aiment le thé masala chai? Bien entendu, c'est une question rhétorique. Je n'attends pas de réponse. Vous imaginez bien que je suis conscient que je ne vais pas lancer un véritable débat autour du thé masala chai à mes collègues. Pourquoi? Parce que je devine 100 fois leur réponse d'avance. Emma nous dirait. Alors moi, attention, hein, si un mec aime pas le masala chai, je préviens, c'est red flag direct.
Comme ils disent tous. Bonne imitation, on reconnaît la voix.
Mais oui, ils disent tout ça dans sa génération complètement du père. Lisa, elle nous susurrait, oh mais le Corse, tu vois pas, tu nous emmerdes avec ton thé là. Emmène-moi dans un hôtel et qu'on en finisse. Hold the Laugh, lui, chanterait. Je suis fan du masala chai. J'adore vraiment ça ainsi que les restos thaï. Je sais entre les deux, pas de rapport, mais c'est aussi pour ça qu'on m'adore. Et là, Nagui dirait adore. Il le ferait avec sa voix suave et sensuelle dont il ne se rend même pas compte que parfois elle m'excite. Bien entendu.
Gêne.
Bien entendu. Alors, gêne totale, je pense pas ce que je viens de dire. J'avais anticipé sur aucun rire de Laïla et Nagui depuis le début de la chronique. Et je suis honnête avec vous, je vous provoquais. Alors, revenons à l'essentiel. Si vous le voulez bien, parlons de moi et du masala chai. Voilà. Comment il s'appellera ta chronique aujourd'hui, Julien? Bah, je sais pas, j'imagine masala chai, la team. Et notez-le bien, c'est très important de préciser que quand je l'ai commandé à la serveuse, ce thé, j'ai précisé sur place. Et au moment de payer, je vois qu'elle avait préparé un petit sac en carton et elle me dit non mais c'était pas à emporter, et moi j'ai dit bah non, j'avais dit sur place, ce qui me permet pour le coup de lancer véritablement le fameux débat du sur place ou à emporter. Bien évidemment c'est faux, et pourtant vous savez, dans ma tête, quand elle a insinué que je m'étais trompé, ça m'a fait mal parce que je déteste l'injustice et je suis sûr que j'avais dit sur place. Et d'ailleurs j'ai voulu lui dire pardon madame, je déteste l'injustice, vous insinuez que je me suis trompé, or c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et je me suis dit aussi dans ma tête que c'était peut-être un peu violent mon argumentaire, sachant qu'à la base on parlait juste d'un thé masala chai. Et là je me pose la question, mais Julien, en fait, quels sont tes combats? Est-ce que tu te rends compte de là où tu en es? Et je me rends compte aussi, depuis le début de la chronique, que ça me fait un bien fou, de façon cathartique même, de pouvoir répéter 15 fois le nom de ce thé. Parce que quand je l'ai commandé pour la première fois, j'ai eu envie de m'ôter la vie. Et je suis sûr que ce thé, il est issu d'un argument marketing très fort, l'impression d'être dans des montagnes ou dans le désert. Raccord? J'en sais rien, mais on a l'impression d'être très très loin de la région parisienne, alors que je l'ai commandé en région parisienne. Et on oublie plein d'où on vient. Il n'y a pas de non. Les gens parlent sur ma gueule. Les scènes de mon background. 93, les vrais sables. Voilà, c'est la fin de ma chronique sur le masala chai. Ma victoire aujourd'hui, elle est symbolique. Je ne sais pas si je vais populariser encore plus, au vu de mon influence, la grandeur de ce thé qui le mérite, mais de savoir que je vais toucher des droits d'auteur sur cette chronique, eh ben, ça n'a pas de prix. Ou en tout cas, plus que celui du masala chai, qui est très bon marché, au vu de sa qualité. Je m'appelle Julien Santini, et merci de m'avoir écouté.
Merci, Julien. Bravo. J'ai jamais goûté le masala.
Ah, c'est l'occasion,
bon.
Nagui.
C'est vrai,
très bon.
D'accord.
Très épicé.
Oui, est-ce qu'il y a des vertus? Est-ce que c'est bon pour la santé, pour la mémoire, pour l'addiction?
C'est très bon pour la digestion.
Pour la digestion,
c'est très efficace.
Oh là là, mais tous est tombé dans le panneau.
Mais non, mais c'est du thé, donc ça fait faire pipi.
Ah enfin, oui, ça, oui. Enfin, l'eau aussi, si tu vas par là. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Ok, très bien.
Il est sur scène.
C'est pas bon.
Oui,
oui.
Il est ce soir à Mézières-les-Metz. Après-demain, il sera à Nîmes le 19 décembre pour la dernière de la saison à Paris, à la Gaîté Montparnasse.
Merci. On est dans le désert péruvien avec ce film Lady Nazca. Le film est déjà au cinéma avec la réalisation, donc pour une première fois, Damien Dorsat, qui sera notre invité dans quelques instants, après avoir fait un documentaire sur, encore une fois, une histoire vraie de cette jeune femme allemande, parce qu'elle est extrêmement jeune au début. Elle est amoureuse d'une personne qui cherche à la retenir un tout petit peu, mais justement, elle va cramer cette histoire d'amour, sacrifier cette histoire d'amour pour pouvoir trouver sa place dans le désert, dans ce silence, dans cette lumière. On l'évoquera avec lui parce qu'il l'a rencontrée, en plus d'avoir fait un doc sur elle. La musique dans votre vie, Guillaume Gallienne, on va commencer en 1990. Peut-être une période où vous rencontrez d'ailleurs Damien.
Oui.
On est au cours Florent.
Ouais. Exact.
Là.
Exact.
Au cours Florent, on vous fait comme retour sur votre jeu que vous êtes trop précis.
Ah oui. Ah oui, ça c'était un peu plus tard, mais c'est vrai, oui. On me disait tout le temps, on me complimentait, oh, c'est fou ce que t'es précis, ce que t'es précis. Et donc j'avais demandé à François Florent, je dis, au moment où je rentrais au conservatoire, il me dit, t'as des questions? Je dis, bah oui, on me demande tout le temps, on me complimente sur la précision de mon jeu, mais ce compliment me fait peur. Il me dit, t'as entièrement raison d'avoir peur. Et je dis, mais oui, mais je ne sais pas pourquoi. Il me dit, parce que dans
précis... comment le prendre, c'est ça?
Il me dit, parce que dans précis, il y a précieux, il y a prévisible. Travaille l'imprécis, ouais. L'imprévisible, l'impressionnant, l'imparfait, l'improbable, l'improvisation. Travaille le IM qui doivent précéder ton jeu.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Oui, c'est
une belle phrase, mais on sort, on rentre chez soi, on se dit waouh, alors là.
On fait la politesse, on devient
imprudent. Eh bien, on apprend à prendre des risques, on apprend à pas trop baliser, on apprend à laisser faire, à croire, à faire confiance au présent aussi.
Ouais.
Et après, on vous reproche le manque de précision, et là, vous partez dans l'autre sens?
Non, moi, avant qu'on me reproche celui-là.
La précision, c'était quoi? C'était être trop scolaire, suivre les intentions?
Non, trop prévisible, c'est-à-dire que je savais exactement ce que je faisais. J'avais travaillé ma scène et j'en démordais pas. Mais non, maintenant, je bouge. Non, je bouge beaucoup. Après, il faut des très bons partenaires aussi. Sébastien Poudroux, par exemple, merveilleux partenaire. Alors lui, c'est un danseur de tango. C'est-à-dire que vous bougez, il bouge en même temps. Il vous rejoint pas, il bouge en même temps. Ça, c'est très rare. C'est merveilleux. Voilà, mais ça met du temps.
En 2009, Guillaume Gallienne, vous écoutiez... Dans cet tango là-dessus, c'est pas facile. Pourquoi les Black Eyed Peas?
Oh ben, ils foutaient une ambiance de dingue. Enfin, moi, ça me donne.
On a du mal d'entendre ça, de pas danser, c'est sûr.
Bah oui, c'est sûr. Voilà, et j'aime tellement ça. J'aime tellement danser, donc oui.
Et on vous retrouve sur Canal en 2009, Guillaume. Dans les bonus de Guillaume, vous vous transformez, où vous. En fait, vous faites des parodies de vrais films, en fait.
Oui, je m'amusais. En fait, c'était à l'époque où il y avait les DVD.
Ouais,
alors,
c'est
pour
ça.
Les jeunes, c'était des objets, c'était des disques.
C'est comme des 45 tours.
Voilà, et on regardait des films. Voilà. Pour un renseignement, faites le 12. Non, et donc, il y avait dans ces bonus, il y avait tout le temps des bonus dans les DVD où on vous montrait les coulisses du tournage. Et en général, c'était filmé par le neveu du producteur. Qui était naze, qui venait dans votre loge, maquillage
bien, télé,
à 8h du matin, disant, et là on fait quoi? Ben, on est en train de me maquiller, enfin ça se voit à l'image, enfin c'était catastrophique. Et donc j'ai décidé de faire une parodie de ces bonus et je me suis beaucoup amusé pendant deux ans au Grand Journal.
C'était quoi votre personnage préféré?
Alors moi j'avais adoré, il y avait une espèce de coach américain qui était un peu en surcharge pondérale et qui était vraiment, qui me faisait vraiment rire parce qu'il essayait de positiver tout et ça me rappelait des choses que j'ai vécues aux États-Unis notamment, mais bon, voilà.
En 2016, Guillaume Gallienne, vous écoutiez. Programmation très fun, énergie, hein, en ce moment, sur Inter, grâce à Guillaume Gallienne, qui est notre invité.
Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Pardon, je suis désolé, les auditeurs de France Inter.
DJ Guillaume. C'est vachement bien.
Quand j'avais l'émission, ça peut pas faire de mal ici. C'est moi qui décidais de
la programmation musicale.
Ouais, je disais, je suis désolé, mais non, je vous me collez pas n'importe quoi au milieu de Proust ou de Steinbeck. Et donc voilà. Et de temps en temps, je proposer des titres et je voyais mon réalisateur qui fait « Ah non, ça, pas sur Inter. »
Vous n'avez pas mis Justin Bieber dans Proust, quand même ?
Non.
C'est un titre, ça. Ouais. Ah, oui. Et bon, 2016,
oui, Leïla,
c'était un titre. Pardon.
Si on avait demandé à Proust.
Voilà. Mais je pense que... 2016, donc, je disais, comédie française, c'est voilà, Guillaume Gallienne, Les Damnés. Les Damnés. Cette pièce tirée en fait du scénario du film de Visconti,
oui.
Mise en scène par Ivo Van Hoff, qui vous a amené aussi à tourner à New York, à tourner...
ça a été une belle tournée en New York, Londres, Anvers. Mais Ivo Van Hoff, avec qui je travaille en ce moment, nous répétons Hamlet,
et oui.
Que nous allons jouer à partir du 21 janvier
à l'Odéon.
Ouais. Et je suis ravi, je suis très très heureux de le retrouver, Ivo. J'aime beaucoup ce metteur en scène. D'abord, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé avant les répétitions. Quand il arrive, il sait exactement ce qu'il veut. Mais surtout,
ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Non. Et il vous amène tellement loin. Oh, et c'est tellement imprévisible. Il a une façon de comprendre les scènes où il révèle, il nous donne une mission par scène. Et tout d'un coup, on dit, oh. Il dit, alors le plus important là, c'est ça. Mais évidemment, et il nous emmène très loin.
Et on retrouve le imprévisible, c'est-à-dire la surprise,
voilà,
qu'on vous reprochait.
Exactement.
Voilà. En 2017, Guillaume Gallienne. Please hold the line. We are looking for your correspondent.
C'est horrible.
Ben, je sais, écoute, il fallait bien.
C'est très drôle.
Rossini. Pourquoi Rossini? Pourquoi cet opéra?
Parce que Stéphane Lissner, à l'époque qui dirigeait l'Opéra de Paris, m'a demandé de mettre en scène la Cenerentola de Rossini. J'avais jamais mis en scène d'opéra de ma vie. Et je lui ai dit, mais pourquoi moi? Il m'a dit, parce que c'est sur la famille, c'est drôle et c'est cruel. Bon, d'accord, vous avez vu les garçons.
L'image que les gens ont de vous.
Non, maintenant ils pensent juste que je suis arrogant, mais grâce à vous, Nagui, merci. Mais non.
Service.
Non, mais et ça m'a plu parce que surtout, il me dit c'est la première commande que j'ai passée à Klaus Michael Gruber, qui était un grand metteur en scène que j'adorais, donc j'ai dit oui tout de suite. Et ça a été une expérience merveilleuse, et depuis, je mets en scène des opéras et j'adore ça.
Vous avez placé cette mise en scène sur un volcan ?
Oui, dans la scénographie d'Éric Ruff, et on la reprend là au mois de mai. Prochain, 1er juin, je crois, à l'Opéra de Paris. On la reprend pour la 4e fois, je suis ravi.
C'est un travail de longue haleine, la mise en scène d'opéra.
Oui, c'est 2 ans avant. Il faut surtout tout prévoir
avant.
C'est
bien, ouais, ça laisse un peu de temps.
Ouais, mais il faut tout prévoir. Ça, c'est très particulier, ouais. Parce que vous n'avez pas les acteurs avec vous, et oui. Vous devez tout prévoir, tout jouer.
Et refuser d'autres projets, j'imagine, ouais. Qui viennent entre-temps, parce qu'en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses.
Ah oui, mais alors moi, j'ai une amie, Catherine Salvia, pour la nommer, qui avec sa sœur, Christine Murillo, elles sont toutes les deux comédiennes, et lorsqu'elles portent un toast, elles disent toujours « Seigneur, donnez-nous des problèmes de date. » Et donc, mais évidemment, tant mieux que quel bonheur de pouvoir refuser quelque chose parce que vous mettez en scène la Cenerentola à l'Opéra de Paris, franchement.
En 2024, Guillaume Gallienne.
C'est bien ça.
Beyoncé. Alors, c'est pas pour le poker, j'imagine, que vous avez choisi ce titre.
Non.
Le Texas Hold'em. Ouais. C'est pour la série sur HBO, Leïla.
Absolument. The Regime. Vous incarnez le mari d'une dictatrice.
dans un pays fictif, mais pas si...
Pas si fictif, il ressemble beaucoup à la Hongrie quand même.
Exactement, et vous êtes l'époux de...
De Kate Winslet.
Voilà. Comme ça.
Qui sort son film, là. Il faut aller le voir. Elle sort son premier film, elle aussi. Elle passe à la réalisation, écrit par son fils, qu'elle a eu avec Sam Mendes, sur la mort de sa mère à elle. Et c'est une comédie. Et voilà. Je le dis. C'est dit. Kate Winslet.
Des années de psychanalyse économisées.
Oui, exactement. Ouais, c'est pas mal.
Comment s'appelle le film
particulier? Ta mère.
Non, June. Something with June.
Goodbye.
Non, voilà. Goodbye June.
Goodbye June.
Ok, goodbye June.
Et puis vous évitez de faire ce geste-là que vous... Non. Toi, tais-toi.
Non, c'est pas ça.
Ah non, mais il a poussé le moustique. Hein.
Il a poussé le moustique. Moi, avec Nagui ce matin, j'ai poussé le moustique.
C'est hyper crypto, ça. Hein. Allez, je sais pas trop ce qui s'est passé.
Bah, merci, Damien, de venir relever le niveau de cette émission. Damien. Vous êtes réalisateur de Lady Nazca qui était un documentaire en 2006, et vous l'avez rencontré, Maria.
Oui, j'ai rencontré Maria quand j'avais 22 ans, la première fois.
Et comment vous l'avez découverte déjà? Comment vous avez su son existence et comment vous avez été curieux pour la rencontrer?
Mais à 22 ans, on était au conservatoire avec Guillaume, et puis moi j'avais une première année au conservatoire, on était tellement heureux de rentrer au conservatoire, on pensait que c'était formidable, enfin moi je pensais que c'était formidable, et puis... La première année avait été si horrible avec mes profs et je trouvais que c'était des gens vraiment pas intéressants, donc je pensais arrêter et Guillaume m'a dit non mais fais un voyage, pars, va faire quelque chose, tu verras, va réfléchir quoi. Donc du coup je suis parti.
Et vous voulez vraiment se débarrasser de vous, hein?
Alors pourquoi le Pérou?
C'était mon premier voyage d'adulte, mes premiers cachets. Je me suis dit, l'endroit qui me faisait le plus rêver, c'était l'autre bout du monde, le Pérou.
Mmh. Ouais. Ok, on est au milieu des années 90, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, 95, ouais c'est ça. Et donc j'arrive au Pérou, et puis avec mon guide, là, le Lonely Planet, et je cherche tous les endroits qui peuvent me donner des idées pour comprendre qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je cherchais? Des choses, je cherchais des quêtes, des choses comme ça. Et tout d'un coup, je lis cette femme, l'histoire de cette femme qui est au milieu du désert et qui balaye le désert depuis 50 ans. Je me dis ça, je vais aller la voir. et j'ai eu la chance de survoler les figures avec un petit avion et ensuite de la rencontrer, de rencontrer son association. Et puis, la vie a fait qu'ils m'ont proposé d'être leur assistant pendant quelques semaines. Donc j'ai travaillé tout de suite, je suis arrivé comme un touriste et le lendemain, je bossais avec l'association. Et j'ai passé quelques semaines...
Elle
continuait le boulot de Maria, sauf qu'elle avait fait des calculs toute sa vie, mais simplement en mesurant, comme ça.
Et en mesurant... Donc c'est vraiment la mathématicienne...
C'était la mathématicienne,
qui,
vraiment.
Qui, sur un papier, essayait de développer la théorie de cette civilisation et de reproduire les cartes astronomiques.
Ouais, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mesuré chaque figure, centimètre après centimètre, pour essayer de comprendre le lien avec les étoiles et les angles de chaque figure, avec les angles des étoiles qu'on voyait. Okay. Et ce que faisaient ces archéologues, parce que moi j'étais juste, je portais leur matériel, c'est mais eux faisaient la même chose, mais avec les satellites. Ils remettaient tout sur ordinateur.
Comment elle s'est retrouvée, elle, là-bas? Comment et pourquoi a-t-elle quitté l'Allemagne? Est-ce que c'est vraiment par hasard qu'elle découvre ces lignes dans le désert?
Elle est partie d'Allemagne en 1932, c'est-à-dire qu'en 1932, quand Hitler arrive au pouvoir, il y a pas mal de gens qui partent quand même. Et il y a 400 000 Allemands qui partent, donc un peu partout. Et elle trouve un
qui
boulot...
Qui sentait donc que le nazisme allait être une catastrophe.
Qui sentent que c'est pas, que ça sent pas très bon. Ouais, et du coup, elle trouve un petit boulot chez le consul d'Allemagne à Cusco. Elle est gouvernante là-bas, et ça se passe pas bien du tout. Et donc, elle a pas de permis de séjour, elle doit rentrer en Allemagne. Et elle refuse de faire ça, elle arrive à Lima sans papier et elle commence à vivre là-bas, à Lima. Elle refait sa vie là, elle décide de rester au Pérou.
Vous l'avez rencontrée?
Oui, mais moi j'ai rencontré Maria donc en 96, elle a 93 ans.
Sur ces derniers jours, voilà. Est-ce que justement, à quel point vous vous êtes permis de lui poser des questions et est-ce que vous aviez déjà en tête le documentaire qui allait retracer sa vie?
Non, moi j'ai... Quand je l'ai rencontrée, c'était quelqu'un qui avait brûlé sa peau. Enfin, elle était allongée sur un lit, elle était aveugle, elle était vraiment à la fin de sa vie. Elle disait juste quelques mots.
Le désert et sa quête l'avaient...
Elle avait usé, ça, elle avait vraiment usé sa vie dans le désert, donc c'était vraiment comme une grand-mère, quelqu'un qui va partir et qu'on vient juste la voir le soir, lui dire bonsoir.
Ça. Ce qui vous a plu, c'est qu'elle soit rongée ou détruite par sa passion, ou qu'elle ait trouvé sa place enfin. Parce que la phrase dans le film que j'avais relevée, c'était j'ai enfin trouvé ma place.
J'ai entendu et ça me plaît, parce que moi c'est vraiment tout le film, enfin moi c'est ça qui m'a intéressé dans le film, quelqu'un qui trouve sa place et donc merci d'avoir aimé cette
au moins cette phrase. Que cette phrase on se la pose quand on est ado déjà, on a 13-14 ans, on se dit
de toute façon après ma place en fait c'est plutôt le chemin pour essayer d'aller vers des endroits qui nous semblent qui sont important pour nous. Alors c'est pas tout d'un coup on trouve sa place et on est tout content, c'est plutôt le chemin pour aller vers ça. Il y a plein de gens qui voient le film là et qui ont même 60, 70 ans et qui disent je suis à un moment de ma vie où je cherche encore autre chose. Donc encore une fois, c'est pas un film de message, c'est un film juste, c'est une quête d'essayer de trouver des choses qui sont importantes pour nous. Mais alors moi, ce qui m'avait vraiment touché quand je l'ai rencontré, c'était que justement en quittant le conservatoire Paris, ses profs pas si passionnants, tout d'un coup j'avais rencontré quelqu'un qui avait vraiment fait quelque chose, enfin qui avait nourri le monde, qui avait cette petite femme qui était arrivée dans le désert et qui avait travaillé toute sa vie. Et si ces figures existaient, c'était quand même, si aujourd'hui c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, si aujourd'hui on fait cette émission, tout ça là, c'est quand même cette petite femme qui a décidé de faire ça. Pour moi, comme jeune homme qui
était en
quête...
Pendant 70 ans. Quand on dit donc toute sa vie, c'est pas une expression, c'est la réalité. Ouais.
Et donc, moi, ce qui m'a étonné, c'était de voir à la fois cet être humain qui est en train de partir, qui est vraiment à la fin de sa vie, toutes les médailles qu'il y a autour, toutes les photos de tous les gens qui venaient, parce que c'était une espèce de Mère Teresa à la fin. Donc, il y avait quelque chose de reconnaissance du monde, ces figures... Elle qui est en train de partir, c'était vertigineux en fait.
Comment vous avez réussi à travailler sur la beauté des paysages, leur grandeur, cette lumière et l'humain, le regard, ces deux dimensions, au millimètre près ou au contraire à des kilomètres?
On a essayé de travailler avec Gilles Porte, mon chef opérateur. C'était vraiment l'idée de travailler avec le soleil, puisque le soleil c'est un des personnages.
C'est même la clé de l'énigme.
Et donc tout est en lumière naturelle. Et moi je choisissais un décor et ensuite je savais à quel moment de la journée je voulais vraiment tourner pour avoir exactement la lumière qu'on souhaitait. J'ai pas eu beaucoup de temps de tournage.
Ouais, c'est ça.
J'ai rien eu, j'ai eu 28, enfin moi j'avais dit 43 jours pour faire mon film, et les producteurs m'ont dit non. J'ai dit ok, bah alors moi 38 mais pas moins, puis il me dit ouais bien sûr 28, ok. Donc on a fait en 28.
C'est cool de jouer aussi avec lui,
c'est rapide.
Mais
ça fonctionne, c'est le problème.
Et l'autre chose, donc en fait c'est grand paysage, ok, et ensuite il y a des vrimes qui arrivent. Et Devrim, quand même, c'est elle qui va nous emmener vers l'émotion.
Devrim Lignow.
Et là, c'était formidable de rencontrer cette actrice. Il y a quelques années, il y avait le rôle de la mère. Maintenant, il a disparu. Enfin, il a été remplacé par Amy Meredith, par l'ami. Mais dans le rôle de la mère, je pensais à Anna Chigoula. Je l'avais rencontrée, je lui donnais le scénario. Quand on s'est revus, elle me dit « Mais Damien, la mère, elle coupe le vent. Mais moi, je veux être le vent. » Et ça m'a donné la définition. Je me suis dit, elle a raison. En fait, personne n'a aussi bien défini ce personnage. Maria, c'est le vent.
Avez-vous, Damien, aujourd'hui trouvé votre place?
Non, mais je
non, mais répondez à la question, monsieur Nagui, était précis.
Et moi, je ne le suis pas. J'ai trouvé, en tous les cas, un rapport au monde un petit peu plus doux, un rapport à moi-même un peu plus doux.
Et vous souhaitez que ce film, au-delà de retenir tout le travail, l'admiration que l'on peut avoir, protège aussi l'œuvre et le travail de cette chercheuse, de cette Lady Nazca, de cette Maria Reich.
Maria, alors ça dépend, les Français c'est Reich, les Allemands ils disent... les Allemands Reich, et en France on dit Reiché, je crois.
D'accord.
Je sais pas, tout le monde dit des choses différentes. Mais en tous les cas, c'est pas vraiment... C'est plutôt, moi ce que j'aimerais garder de cette histoire, c'est plutôt quel est notre rapport au monde? Qu'est-ce qu'on va en faire de ce monde en fait? Là, parce qu'on est quand même en train de se poser cette question tous les jours, un petit peu plus. Et là ça pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre rapport? Et notre rapport aux anciennes civilisations aussi, à ce qu'il y a eu avant nous.
Ce film, en tout cas, c'est une réussite en termes déjà d'esthétisme et aussi de relations humaines et d'intérêt à voir cette histoire. Inspirée d'une histoire vraie, c'est pas forcément un biopic, mais chacun peut justement y voir un enseignement personnel en fonction de l'âge auquel que l'on a lorsqu'on voit ce film et sa perception du monde justement dans lequel nous sommes. Merci Damien d'être venu à ce micro.
Merci à vous.
Bravo pour ce premier long métrage. On en parle jusqu'à midi et demi avec Guillaume Gallienne qui est notre invité, mais d'abord voici Emma Beaujean et son hommage.
Bonjour, bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui je voudrais rendre hommage à la peinture. Et oui, le troisième art absolument. Pour rendre hommage à cet art immense, à cette discipline importante qui nourrit l'imaginaire collectif depuis les premiers sursauts de l'humanité, j'aimerais accueillir une immense artiste, quelqu'un moi que j'admire énormément. Et c'est incroyable pour moi de la recevoir. J'avoue que moi j'oserais jamais l'interviewer. Leïla, je préférerais vous laisser le faire si ça vous embête pas. C'est ok pour vous. Oui. Merci beaucoup. Merci d'accueillir Philippine de la Molle Boursière. Merci.
Philippine de la Molle Boursière, bonjour.
Bonjour Leïla. C'est très joli comme prénom, Laila. J'en ai connu une autre aussi quand j'étais petite, Laila.
D'accord. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre de votre nouvelle collection baptisée « Souvenirs de ma mamie en Normandie ». Alors, ces peintures parlent de votre grand-mère, mais aussi de vous. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec cette collection ?
Je vous arrête tout de suite, Laila. Je vois ce que vous voulez faire. Moi, j'ai connu un petit peu la télévision. Enfin, mon père a été le directeur des programmes de France Télé. Oh, Nagui, je t'avais pas vu, ça va, parrain. Moi, donc je vois là, Naila, là où vous voulez m'amener. Vous voulez me tirer les larmes en parlant de ma grand-mère, hein, c'est ça, grand-mère Maminouche. Ça va pas arriver en fait.
Non, mais pas du tout. Je ne veux pas vous faire pleurer. Je vous poser une question simplement sur votre collection qui s'appelle comme ça.
D'accord, mais moi je connais un petit peu le système. En fait, je suis pas venue à la télé pour pleurer en fait.
C'est de la radio, Philippine.
Bah enfin, Naïma. Vous voulez que je déballe tout là, c'est ça. Vous voulez que je pleure, que je m'effondre en direct parce que je peins deux hortensias et un rideau à fleurs. Mais merde, hein. C'est ça votre fantasme journaliste. Souvenir de ma mamie en Normandie, ce n'est pas un album photo pour provinciaux émus. D'accord ? Clair, pas clair ? Vous pouvez pas comprendre, en fait, je sais pas. Juste là, on n'est pas en train de parler d'une sortie au Futuroscope.
Waouh, ok, bon. Alors moi, j'y vois simplement un travail sur la mémoire transgénérationnelle, sur la saturation affective des pigments, sur l'héritage aussi comme prison chromatique.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, en fait, en gros, moi, c'est les souvenirs avec grand-mère dans la maison d'être tard. C'est ça. Et en fait, mais c'est quoi, j'ai l'impression que je suis un peu dans un piège là. Je comprends pas trop ce système. Enfin, je sais pas, juste parce que quelqu'un a aimé sa grand-mère, ça devient automatiquement un sujet larme télévisée. Vous me faites passer pour la gosse de riche. Ok, vous savez, Lila, je vais le dire en fait, parce que les gens comprennent pas au sérieux. Un jour, j'ai passé la nuit dehors. En gros, je vous explique rapidos, papa, il n'avait pas cuisiné et dans le 7e, après 2h du mat, tout est fermé. Donc, j'ai commandé un Uber Eats et je suis descendue le récupérer et en fait, j'ai pris la commande sans prendre les clés. Et j'étais enfermée pendant 20 minutes dehors. Après, papa, il s'en est rendu compte. En fait, juste, pardon, mais ce que je vous dis, c'est que voilà, moi, j'ai manqué d'amour, c'est ça. Putain, vous me faites craquer, c'est ça que vous vouliez, Naïra.
Non, mais pas du tout. Moi, je ne pense même pas que vous peignez juste la Normandie plutôt que vous disséquez l'idée occidentale de la nostalgie. Les vaches, par exemple, elles sont conceptuelles, les ciels sont politiques. Quant à mamie, en fait, j'y vois une femme comme Duras qui vous a appris que l'émotion est une matière brute, qu'on travaille, pas un robinet qu'on ouvre à la bande.
Juste là, j'ai l'impression qu'on essaye de me faire passer pour une conne. Vous savez, Omaïra, je vous ai dit, j'en ai connu une autre avant qui s'appelait comme vous, mais je vais vous dire un truc, j'ai pas peur de le dire. Vous êtes beaucoup moins aimable que ma nourrice, qui était une femme extraordinaire, qui vivait pour la sororité, pas pour se tirer dans les pattes entre femmes. Moi, je suis une girls.
Non, mais revenez.
Ah ben non, mais partez pas, Philippine. Ah, c'est dommage, c'est con. Parce qu'en plus, elle a une super expo qui commencera le 3 février tous les mardis à 19h au théâtre Le Pic. Oh, c'est con. Concernant la peinture, ce que je voulais vous dire avant qu'on reçoive cet artiste, c'est que moi, alors, j'ai commencé par associer ça au musée quand j'étais petite, quand j'étais enfant. C'était des sorties scolaires, mais jamais ludiques. Et puis après, j'ai découvert Klimt quand j'avais 16 ans. J'ai été bouleversée. Et lundi dernier, j'ai appris que la peinture, ça pouvait être autre chose. Petit contexte rapide, le week-end dernier, je poste une photo de moi sur les réseaux sociaux dans ma salle de bain où l'on voit que
je suis en culotte et je cache le reste de mon corps. Bon, j'aurais pu être nue d'ailleurs, hein, et dire venez, je vous séus au 06 23 45 ça, ça aurait rien voulu dire. Bon, si, non, si, il y aurait quand même une petite info. Mais disons que ça aurait pu expliquer des pensées, mais jamais justifier des comportements, en tout cas, pas tous les pantois, sale pute, va mourir que j'ai reçu à foison le week-end suivant. Et une artiste peintre du nom de Flore Perrault a dessiné cette photo et y a ajouté la phrase « Si le corps d'une femme vous dérange, j'en ferai de l'art ». J'en ai parlé avec elle pour la remercier d'abord et la féliciter ensuite. Elle m'a dit « C'est ma manière à moi de transformer tout ça en beau ». Je ne savais pas qu'une menace de mort pouvait être aussi jolie, alors bravo et merci à tous ceux qui font du beau. À partir du moche, cet hommage il est pour vous. Merci.
Bravo. Merci. Bravo. Emma Beaujean.
Sur scène à partir de février, ce sera tous les mardis à 19h au théâtre Le Pic.
Guillaume Gallienne est notre invité. En ce moment au cinéma, Lady Nazca. Et de quoi vas-tu nous parler, Tanguy Pastureau ?
De l'émoji fusée sur LinkedIn et de l'auto-promo permanente que désormais nous sommes obligés de faire sur les réseaux, nous autres, les saltimbanques.
C'est la bande originale avec Leïla, Gabou Boudali, Lisa Delmoitier, Mabo Jean, Oldenas, Julien Santini, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité, monsieur Guillaume Gallienne.
Bonjour,
de la Comédie Française.
Je me demandais
de l'entendre.
Il manque quelque chose sinon.
Toujours de la Comédie Française ?
Oui, toujours à la Comédie Française.
De plus en plus ?
Mais non, ça fait 30 ans là. Non, je ne peux pas faire plus là. Non, 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 c'est bien.
À vie ?
Ah non, pas à vie, il faut pas. Non, non, non.
Vous avez déjà décidé de la date à laquelle vous arrêtez ?
Non, j'ai pas du tout envie de décider de ça maintenant. De toute façon, je suis encore
sous contrat. C'est ce qu'on vous demande.
Non, je suis encore. Non, parce que je suis encore sous contrat pendant 2 ans et demi. Donc, de toute façon, je ne peux pas partir pendant encore 2 ans.
J'entends, mais est-ce que vous avez le droit de dire c'est mon dernier contrat, dans 2 ans et demi, j'arrête ? Est-ce que vous avez le droit de le dire maintenant ?
Oui, j'ai le droit, ce serait complètement idiot, mais oui.
Mais oui, j'ai plein d'autres suggestions.
Non, 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 mais...
Qu'est-ce que vous insinuez ?
Non, mais ça serait idiot.
Je n'estimais pas Nagui, hein.
Non, mais ce serait idiot dans le sens que...
Vous, ce matin.
Non, mais je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas ce que ça peut...
Il y a une tension.
Dans 2 ans et demi, je ne sais pas. Donc, pourquoi annoncer maintenant...
Vous faites des mises en scène d'opéra pendant 3 ans, donc vous avez une projection de ce que vous faites et de votre emploi du temps pendant plusieurs années. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez ce besoin de... de lever le pied, soit de passer à autre chose.
Il veut pas partir, il veut pas partir.
Alors, cela dit, non.
Le fait qu'il ne veuille pas partir, c'est une information.
Non, alors, cela dit, c'est pas faux, ça se bouscule un peu. Ça se bouscule un petit peu. Pour l'instant, je continue à privilégier ma mission de service public et l'emploi du temps de la Comédie Française. Voilà.
Okay, vous la définissez comment, cette mission de service public ? C'est l'un des sujets du moment, ça.
Eh bien, je la définis que c'est un des rares endroits, mais encore présent, où on peut être 22 au générique d'une distribution, à jouer des grands textes dans des grandes mises en scène, et pour 5 euros la place. Et maximum 48. C'est ça la mission de service public.
La notion de patrimoine est également au cœur de ce film, Lady Nazca, déjà sorti au cinéma. Exactement.
Préserver, sans faire de la muséologie pour autant.
Protéger aussi. Elle est en danger, cette découverte de Maria Reiche.
Elle est en danger.
Systématiquement, c'est pas acquis maintenant comme étant protégé, patrimoine mondial, et on n'y touchera jamais.
Ça, elle l'a réussi, mais à la fin de sa vie. Vraiment à la fin de sa vie, pour protéger. Et encore, on voit bien aujourd'hui comment un mec en 6 mois peut tout foutre en l'air. C'est jamais acquis. Il faut toujours se battre pour protéger, préserver ce que les anciens nous ont transmis, mais aussi une mission présente. Qu'est-ce que c'est qu'une mission au présent ? Ça, c'est très important.
Il y a aussi ceux qui nient, entre guillemets, la force de l'histoire, de son impact, en disant, à quoi ça sert de garder des lignes au milieu du désert? Ok, ça a été découvert il y a des milliers d'années, super, ils ont fait une carte. Mais maintenant, on a des applications pour retrouver les étoiles et pour retrouver les constellations. À quoi ça sert de garder ça?
Bien sûr.
Dans un premier temps, à quoi ça sert de les préserver?
Oui, c'est ça, ça va être
progressif.
Oui. Non, mais surtout, c'est que, comme si les moyens employés étaient trop coûteux. Non, Enfin, c'est impossible de penser comme ça. Mais
Alors, il est justement aucunement question de d'argent ou de moyens. Elle le fait vraiment avec les moyens du bord. Elle achète 3 balais et elle-même, sans aucune aide extérieure dans un premier temps, puisqu'elle cherche à convaincre tout le monde. Et on la prend un peu pour la folle du quartier.
Totalement.
Y compris les Péruviens.
Oui.
Qui la regardent faire en disant la pauvre, quoi.
Ah mais comment et puis
brûle au soleil,
à part les non puis à part les Indiens locaux vraiment de cette région là personne s'y intéressait. Elle est aujourd'hui sur les billets de banque. Il n'y a pas beaucoup de personnalités étrangères dans un pays sur les billets de banque.
Qui ont été adoubées comme ça, c'est ça.
Oui, oui, vraiment.
L'histoire de Maria Reiche, qui est Lady Nazca dans ce film signé par Damien Dorsat. On est dans une quête et finalement, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'elle qui est intéressant, malgré la dimension du décor, du territoire. L'immensité à l'infini, c'est très intime.
C'est très bien vu, ça. C'est très bien vu, Nagui. Ça me fait hyper plaisir parce que c'est exactement ça. C'est ce contraste entre cette immensité qui a l'air presque calme et ce volcan qui se passe à l'intérieur d'elle de trouver sa vérité et d'être prête à tout, mais vraiment à tout. C'est merveilleux.
La beauté de la musique, la beauté de l'image, cette lumière. Tout à l'heure, Damien nous disait que justement, aucune lumière n'avait été, entre guillemets, inventée, trafiquée, uniquement la lumière naturelle. Et vous allez vous prendre une claque en allant au cinéma voir ce premier film de Damien Dorsat qui s'appelle Lady Nazca. Voici Tanguy Pastureau.
L'autre jour, j'étais dans le train, j'y passe ma vie à cause de la tournée. Je connais tous les contrôleurs. Hein. Quand j'en croise un, je lui dis « Hey, scanne mon 5 !» Et on se check alors qu'il a sa machine à vérifier les billets dans la main. Je dormais, je dors beaucoup dans le train parce que j'ai déjà vu au moins une fois chaque voyageur. Je suis lassé. Quand soudain, mon téléphone a vibré dans ma poche, j'ai eu un frisson de plaisir. C'est pour ça que je m'abonne à plein de newsletters pour que toutes les 8 minutes, ça me vibre tout près du oui-oui. Je fais donc « Ah oui. !» J'essaie d'érotiser l'antenne hein, parce que Benjamin Duhamel en pue la colle roulée, c'est un premier pas, mais ça va pas suffire à faire remonter les audiences. Je regarde le téléphone, c'est une demande d'une salle dans laquelle je passe bientôt. Ils veulent que je fasse une vidéo pour promouvoir ma date. Ils ont cru que j'avais 22 ans et qu'une vidéo de moi en gros plan filmée à l'iPhone, ça allait faire venir les gens au lieu de les faire s'enfuir. Alors que pas du tout. Dès que j'en fais une, elle est détournée par des influenceuses make-up avec le titre « Voilà pourquoi il faut se maquiller ». Souvent, je vais briser l'omerta qui règne dans le milieu. Julien Santini qui, je crois, est corse. Il me semble avoir entendu l'évoquer un jour dans une chronique. C'est ce que parler implique. Mais tant pis, j'ai peur de rien, moi. À part des araignées, des vipères, de la mort, de l'eau quand on a papier, du vide, du temps qui passe, des tueurs en série, d'AB Productions et du catalogue en streaming de M. Pokora. Souvent, nos prods et les salles nous mettent la pression pour qu'on soit présent sur les réseaux le plus possible et qu'on fasse notre auto-promo. Moi, je sais pas faire ça. Alors, je regarde ce que font les jeunes et je les imite, mais ça va jamais. La fois où, en mini-short, j'ai dit « Salut les loulous, on se retrouve à Arras, vous avez le sel, je viens avec ma frite. » Il y a eu 400 signalements sur Farnes pour contenu déplacé sur Internet. Je suis fatigué, les amis, par cette pression qu'on nous met. Quand j'étais petit, c'est Drucker qui faisait la promo. Il recevait Michel Berger et Gainsbourg. Gainsbourg pissait dans le verre de Michel Berger, vomissait sur le public. Drucker disait « Ah là là, il est défoncé, mais ça passe parce qu'on est en 1984. Profite, Serge !» Il montrait l'album. En 84, Gainsbourg sortait « Love and the Beat ». Dans le clip, Bambou s'accompagne dans ses nus. Ça aussi, ça a changé. Moi, j'ai pas un proche qui danse nu derrière moi pendant cette chronique. Hold Up s'est proposé. Mais ce n'est pas un proche. Et puis, avec ce corps de bûcheron fini à la gnôle de châtaigne qu'il a, tout le monde le regarderait lui au lieu de m'écouter moi, parce qu'il est splendide. Ensuite, Zou, Gainsbourg vendait 500 000 disques. Il n'était pas obligé de se vendre comme quelqu'un de bien, parce que Drucker faisait le job. Il pouvait brûler des billets, insulter Whitney Houston. Ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Guillaume Gallienne, en début d'émission, ne nous a pas dit « Salut les cons !» en découpant sa carte Visa avec une scie à bois. Là, je regarde les Instagram de mes collègues humoristes, ces gens qui m'appellent le King. Il y en a plein qui ont écrit « Offrez-moi comme cadeau de Noël ». C'est tellement triste de devoir faire ça. Moi, jamais je ne dirai au public que des places pour mon spectacle spectacle Un monde de style constituerait un excellent cadeau fait à des proches pour les Lillois, puisque je passe à Lille en février, aussi bien que pour les Lyonnais, puisque je serai à Lyon en octobre. Pourquoi ? Parce que j'ai de la décence. Et hier, j'étais sur Montée de Sève et Potbête.fr, le site de Daniel Morin, quand je suis tombé sur un article à propos de l'auto-promo sur LinkedIn. Alors vous n'avez pas besoin de LinkedIn, hein, saleté de troubadour. Mais les gens qui ont une carrière normale, on en a besoin hein, là-dessus. Vous savez, on retrace son parcours, on parle de ses expériences, toujours en positivant à l'extrême. Hein, quand on se fait virer comme un étron, on écrit cette belle aventure chez Média Conseil +++ a fait de moi une meilleure personne. Merci aux équipes, surtout à Xavier qui m'a jeté physiquement à l'extérieur de la boîte et m'a permis de travailler mes réflexes quand il a fallu que je me rattrape pour que ma tête ne tape pas le trottoir. Vous voyez, sur LinkedIn, tout est positif. Les gens qui vous suivent aussi, hein. Vous postez une photo de votre carte pour le distributeur de boissons, il y a 600 contacts qui écrivent « Yes, tu vas pouvoir faire des cafés, bibiche hein, !» Bien joué, déjà en BTS Force de Vente, tu étais la number one. Sauf que de plus en plus de cadres, de salariés disent n'en plus pouvoir de se vendre H24. Ce côté win est usant. Et j'ai lu des articles sur l'émoji fusée. Nagui, vous voyez l'émoji aubergine hein, que vous m'envoyez parfois. Après, vous me faites un autre texto avec écrit « Pardon, erreur de destinataire ». C'était celui pour une femme très proche. Elle, en retour, a reçu le texto qui m'était destiné. Pas top ta chronique une fois de plus. Et ben l'émoji fusée, c'est pareil, mais sans connotation salace. Ça veut dire qu'on fait partir un projet qui va décoller et ça va être énorme, parce qu'il faut toujours avancer et dire je suis sur un truc, oh waouh hein, et se promouvoir encore et encore pour survivre. Avant, ben, je pense qu'on bossait. Un jour, le directeur nous disait « Pasturo, vous avez fait un excellent travail. » J'ai pris un exemple crédible. Et on était promu. Vous voyez, jamais on hurlait dans les couloirs « Les gars, j'ai un projet tip-top qui va redéfinir le monde de la com et des médias. » Désormais, on ne buzz plus, on crée son propre buzz. Plus rien n'est involontaire. Nous ne sommes plus la matrice, mais des millions de matrices autonomes qui se flattent elles-mêmes et qui s'usent. Parce qu'on vit plus que par le like et cette saloperie d'émoji fusée. Dans l'humour, je vois la différence entre les vieux, les 40 ans et plus, ils boivent des coups après le spectacle, les mots « on va se mettre mal » sont prononcés. Le lendemain, ils ratent leur train parce qu'à 3 grammes, ils ont réglé le réveil du Samsung sur 16 heures au lieu de 6 heures. Et les jeunes qui font le show, puis à 22 heures, sont à l'hôtel parce qu'il faut qu'ils soient nets et frais pour tourner la vidéo dans laquelle ils diront les bébés « le 12, je passe à Arras, vous avez le sel, je viens avec ma frite. » Et ça passera, pourquoi ? Parce qu'ils ont 22 ans. Moi, j'en ai marre de l'autopromo, donc vous savez quoi ? Venez si vous voulez, et sinon, allez vous faire foutre. Sauf les Lillois, on se voit en février, ainsi que les Lyonnais en octobre. Et Oldelaf, si tu veux danser, libre à toi, tu as ce corps.
Merci, Pasturo.
Qui sera également en Haute-Savoie.
À il Boulbain, a la frite c'est...
Oui, absolument. Le 16 janvier, peut-être, Oldelaf sera derrière, en train de se trémousser.
Oh. En ce moment, au cinéma, Lady Nazca, avec cette actrice allemande, Devrim Lignau, que je ne connaissais pas, mais qui est vraiment bouleversante, tout autant que Guillaume Gallienne à l'affiche de ce film. Le film est déjà au cinéma, profitez-en. Il y a un autre événement, d'autres événements culturels.
On va parler des Golden Globes, ça sera le 11 janvier. Il y a un grand favori qui émerge déjà, avec 9 nomination.
C'est celui de DiCaprio.
Absolument, DiCaprio. Bravo. Une bataille après l'autre, cette comédie noire et politique de Paul Thomas Anderson. 9 nominations pour ce film.
Tu l'as vu?
Non, je ne l'ai pas encore vu, moi.
C'est formidable. Ouais, c'est vraiment formidable. Les acteurs sont incroyables.
Juste ensuite, il y a 8 nominations pour Valeurs sentimentales que j'ai vues, là, pour le coup, de Joachim Trier. Oui. Et il y a un simple accident aussi qui est en lice pour des trophées majeurs. Ce film de Jafar Panahi qui a eu la Palme d'Or à Cannes, qui a été, on l'a appris, condamné à 1 an de prison, là, à nouveau, pour activité de propagande. Et il a affirmé, ce réalisateur, qu'il avait l'intention de rentrer en Iran malgré tout. Après avoir fait sa tournée pour les Oscars, il rentrera en Iran, donc 1 an de prison l'attend, une interdiction de voyager aussi pendant 2 ans, absolument. Ouais. Vous avez tourné avec Kirill Serebrennikov, cinéaste russe, qui lui-même avait été condamné à de la prison.
Oui, il a été en maison surveillée pendant longtemps. Le film d'ailleurs est à ce sujet. Enfin, ça porte là-dessus. Même s'il a francisé l'action.
Mais qu'est-ce que ça change, justement, tout d'un coup, un réalisateur qui, dans son pays, a pris des risques, ou en tout cas qui a été menacé, est-ce que, dans les interactions que vous avez avec lui, dans les récits qu'il vous fait, j'imagine que c'est des récits qui sortent de l'ordinaire.
Kirill, il a une façon d'aimer qui sort de l'ordinaire, de toute façon. Il aime totalement. Donc, quand on est choisi par lui, il vous déclare une espèce de flamme. Il vous aime. Totalement, voilà. Donc c'est extrêmement agréable et très porteur. Ce qui fait qu'on bosse des heures, on fait ce qu'il veut, mais vraiment ce qu'il veut, on répète comme des dingues aussi. Et il a une folie incroyable. Moi, je lui ai juste demandé si la Russie lui manquait. Il m'a dit, mais moi, la Russie, mon pays n'existe plus. Mon pays n'existe plus. Donc la Russie que j'ai aimée, elle est dans mon cœur, mais elle n'existe plus.
Ce que dit Jafar Panahi, c'est que lui, il a un seul passeport et que c'est le passeport de là où il appartient, c'est son, son pays. C'est une question particulière de choisir l'exil. Il n'arrive pas à s'y résoudre, vraisemblablement.
On a hâte quand même que ce régime tombe. Hein. On a vraiment hâte, mais ça, j'ai l'impression que ça ne peut venir que du peuple iranien. Moi, j'oublierai jamais, au moment des manifestations contre la mort de cette femme qui a été tuée par le régime parce que son voile était mal ajusté.
Ah oui.
Il y a eu plusieurs morts, et notamment un jeune homme de 22 ans, et je n'oublierai jamais, parce qu'à un moment, au moment de ses obsèques, le père de ce jeune homme, devant la foule rassemblée, a crié « Jusqu'à aujourd'hui, on disait toujours « Il est fort et courageux comme un homme. À partir d'aujourd'hui, on dira « Il est fort et courageux comme une femme. » Et je me dis, un pays qui peut encore, où on peut encore prononcer ces paroles, alors c'est pas perdu.
Mahsa Alouni.
Oui, merci. J'ai oublié le nom, merci.
Autre question, on va parler d'une tradition qui concerne un musée à Stockholm. Dans ce musée, vous allez pouvoir trouver des objets assez étonnants, comme s'il n'y avait pas vraiment de direction artistique, en fait, ou qu'il n'y avait pas de curateur, en tout cas, qui régissait l'ensemble. On peut y trouver, par exemple, un réveil, un habit d'académicien. Une photo aussi.
C'est quoi la question ?
C'est quoi ce musée ?
Est-ce que c'est celui de Nobel ?
Musée des objets dont on n'a pas trouvé le propriétaire. Mais t'es en forme, Olde-Laf ! Mais qu'est-ce qui se passe ?
C'est le musée Nobel. C'est-à-dire que quand vous recevez le prix Nobel, on vous invite chaleureusement à offrir un objet fétiche à ce musée. Le réveil, c'est Annie Ernaux qui l'avait choisi. Patrick Modiano avait offert, lui, une photo de Willy Ronis. Il y avait eu l'habit d'académicien qui avait été offert par Mario Varga Loza. Vous, si vous deviez offrir un objet fétiche, vous Guillaume Gallienne, prix Nobel, ou vous en tout cas décerné, vous devez offrir un objet fétiche qu'on retrouverait dans ce musée-là. Ce serait lequel et pourquoi surtout ?
Oh là là, la colle !
Ouais.
Si je le reçois, ce serait... Ça m'étonnerait que ce soit pour la paix. je sais pas, en littérature, donc quelque chose qui a lié à la littérature.
Et à vous, surtout. À vous. Bah oui. Parce que Annie Ernaux, un réveil, on n'est pas nécessairement très très lié à la littérature.
Je crois mon exemplaire de La Recherche du Temps Perdu. Qui est tellement annoté et coché.
Le paradoxe, c'est que ils offrent un objet auquel ils tiennent.
Oui.
Donc ils se séparent de quelque chose. C'est ça qui
est... Oui, un fétiche. Pour rejoindre un musée, on se dit qu'on peut faire ce petit sacrifice.
Après, si on est un peu mesquin, on offre quelque chose de mathématique, parce que c'est le seul prix Nobel qui n'existe pas. Et vous savez pourquoi?
Non.
Parce qu'il
avait été cocu.
Avec la
femme de Monsieur Nobel couchait avec un mathématicien.
Oh, waouh!
C'est la trivialité par rapport à un truc aussi important. Je
quel enchaînement avec la mathématicienne!
Mais évidemment,
il est très pro.
Ça va vite, trop vite.
Je suis d'accord. Le 11 mars, alors pour l'instant, le film Lady Nazca est au cinéma. Le 11 mars prochain, vous serez à l'affiche de Bazar de Rémy Besançon.
Ah oui.
Avec Gilles Lelouch et Laetitia Casta.
Oui. C'est charmant. C'est vraiment, c'est tendre, c'est charmant.
Une comédie romantique.
Très original, oui, très original. Un hommage à Hitchcock. C'est vraiment, c'est très charmant.
On a évoqué Kirill Serebrennikov, avec lequel vous avez tourné après. Le film sortira, j'imagine, courant 2026. Il y a déjà une date prévue ?
Non, pour l'instant, on me l'a pas donné en tout cas.
Ludivine Sagnier, Louis Garrel, Vincent McCain, Fanny Ardant. Waouh ! Et vous ? On a hâte de voir ça. Et vous préparez Cyrano de Bergerac en film d'animation ?
Avec des animaux. Ouais, depuis 4 ans. Et il sera prêt dans 2 ans et demi. On se revoit ?
Ouais. Film d'animation avec des animaux, c'est-à-dire les animaux sont dessinés.
Oui, vous vous souvenez de Robin des Bois, de Walt Disney?
C'est la même chose. D'accord.
C'est pareil, c'est des animaux qui sont les personnages de Cyrano de Bergerac. Et c'est un projet magnifique, vraiment très très beau.
Au théâtre, vous serez les 21 décembre, 8, 11, 18 janvier pour Pulcinella d'Igor Stravinsky et L'heure espagnole de Maurice Ravel qui se joue à l'Opéra National d'Estonie.
Oui, à Tallinn, oui. Ah oui, c'est très beau ça aussi, belle distribution. Non, mais c'est parce que c'est les reprises. Donc les reprises, vous mettez en scène avec des artistes en France, et puis tout d'un coup c'est repris, mais c'est repris par les artistes locaux.
Mais vous y allez ?
Oui, j'y suis allé. Bah oui. Et les castes sont formidables, vraiment.
Hamlet de Shakespeare, mise en scène Ivo Vanov, oui, du 21 janvier au 14 mars, ça sera à l'Odéon.
Oui.
Et vous serez dans Le Malade Imaginaire, mise en scène de Claude Strass, du 27 mai au 12 juillet. Au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Oui, exact.
Votre emploi du temps est prévu et noirci jusqu'à quand ?
Là, jusqu'à janvier 27, peut-être plus.
Mais... Ça, c'est à force de trinquer pour avoir des problèmes de date.
Exactement, mais c'est vrai, mais Dieu m'entend, moi je suis ravi pourvu que ça dure.
Des excuses à présenter, Daniel Morat.
Désolé pour tous les producteurs qui, après avoir entendu Damien, le réalisateur de Lady Nazca, se sont dit oh, trop bien ce gars, tu peux le convaincre de tourner un long métrage en 48 heures avec 200 euros. Et la Nogo prend 11 minutes. Waouh, vive le cinéma. Alors non, Damien, il sera plus résistant la prochaine fois. Elle a attendu 18 ans, il n'en pouvait plus. Mais c'était la première et dernière fois. Oui, Damien. Ah oui, maintenant, il exige 300 euros, moins 72 heures de tournage, voilà. Il est limite devenu arrogant, je suis d'accord. Désolé pour Damien, cette fois le réalisateur, qui a découvert ce matin que, pour son ami Guillaume Gallienne, son film, celui pour lequel il s'est battu pendant 18 ans, ne valait pas mieux qu'un épisode de Madame est servie. Tony Danza forever.
Oh,
oui, quel mauvais désolé. Esprit, mais je oui,
détournement
je
total.
Je peux pas le blairer, ce mec.
On est d'accord. Enfin, quelqu'un a le courage de le dire.
Ça va, vous avez fini tous les deux. Désolé maintenant pour Justin Bieber, qui aimerait qu'on lui demande son avis. Avant de, je cite Leïla, le maître dans Proust. Alors, c'était du Leïla, et celle qu'on surnomme la sorcière de Poitiers, le consentement, elle s'en cogne comme de sa première cuite au gasoil.
Merci Daniel Morin, qui sera le 15 février à Strasbourg. Avant de se quitter, puisque vous êtes gentiment resté avec nous, Damien Dorsa, quels sont vos projets ? Est-ce que vous êtes déjà dans le film votre second ?
Alors oui, je suis en train d'écrire un autre film, ouais. Oui. Mais aussi, j'ai envie d'être acteur à nouveau, parce qu'après toutes ces années, j'ai quand même j'ai pas fait 17 ans que cette chose-là, j'ai quand même bossé comme acteur, mais ces dernières années, c'était surtout mon film. Alors là, je pense que je vais être un acteur extrêmement sympathique avec le réalisateur. Maintenant que j'ai vu ce qui se passait.
Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été, Devrim et Guillaume, sympathiques avec
vous ? Non, c'est pas ça. C'est que quand on voit le travail, quand on voit ce qu'il faut faire pour monter, pour tenir son film...
En tout cas, bravo, c'est une réussite. Lady Nazca, soyez fiers de ce film, actuellement au cinéma. Merci beaucoup, Guillaume, d'être venu à ce micro.
C'est un bonheur de vous voir tous.
Et Guillaume Gallienne partage l'affiche de ce film. Hey !
Quand même.
Bon, bon week-end. On se retrouve lundi avec Nicolas Maury et Lucas Bravo. Bonne journée, bon week-end. À la
prochaine.